Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 6 mars. Nous parlerons de l'opération d'apaisement de la presqu'île, presqu'île à vivre, avec une opération qui vise aujourd'hui à décrouter la rue Grenette et du coup à la désamianter. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Le plan nature de la métropole de Lyon, la métropole qui poursuit ses opérations de plantation sur le territoire. Nous ferons le point avec le reportage d'Inès Crimi. Une journée de prévention à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Il s'agit de sensibiliser au cancer colorectal. L'industrie d'aujourd'hui en pleine mutation. Nous découvrirons dans ce quart d'heure lyonnais Manukeo et Copo, deux plateformes numériques qui visent à relocaliser l'industrie. Et puis la lourde sanction contre Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, suspendu les jours de match jusqu'au 30 novembre.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Presqu'île à vivre, l'opération d'apaisement du centre-ville se prépare pour entrer en vigueur, on le sait, dès le mois de juin. Le désamiantage de la rue Grenette a débuté hier, de grandes bâches de protection ont été installées. L'opération est menée tout au long de la rue, là où la présence de cette matière dangereuse a été détectée. L'amiante était autrefois ajouté au bitume, cette pratique n'existe plus, mais les chaussées qui en contiennent doivent faire l'objet de protection lorsqu'il y a décroutage. La mise en place de capteurs permet de mesurer le niveau d'empoussièrement de manière à atténuer que l'on est toujours en dessous des seuils autorisés avant, pendant et après l'intervention. Un nouvel enrobé sera ensuite appliqué pour pouvoir accueillir les flux de bus à partir de juin. Dans le cadre de son plan nature, la métropole de Lyon poursuit ses opérations de plantation sur le territoire en développant notamment les espaces verts en ville. À Villeurbanne, ce sont 170 arbres qui ont pris racine cet hiver. Le but, lutter contre les îlots de chaleur. Plus d'informations avec Inès Crimi.
180 000, voilà le nombre d'arbres qui ont été plantés dans la métropole de Lyon depuis le début du mandat des écologistes. Toutes ces plantations sont réparties un peu partout sur le territoire et en particulier dans les zones subissant une surchauffe urbaine. Direction donc Villeurbanne, où 170 nouveaux végétaux ont été plantés cet hiver. Pour le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, planter des arbres signifie plus largement prendre soin de nos espaces publics.
Ce n'est pas juste la question de planter des arbres. Pourquoi aujourd'hui, c'est une politique qui rencontre les souhaits des habitants? Un, d'abord, ils se rendent tous compte qu'on a très chaud l'été et que ça rafraîchit. Deux, tout le monde prend plaisir à voir des arbres, à avoir des arbres au quotidien, quand on se déplace à pied, etc. Et puis, trois, bien sûr, ça améliore toutes les questions de biodiversité. Donc, le travail qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est de trouver les moyens techniques pour planter le plus d'arbres possible. Et ce qu'on vous a fait voir aujourd'hui, c'est une manière de planter au-dessus des réseaux, parce que nos villes ont plein de réseaux en dessous, le gaz, l'eau, l'électricité, et c'est compliqué de planter. Donc aujourd'hui, on a mis en place des nouveaux protocoles pour planter le maximum d'arbres. Donc on est aujourd'hui sur des choses qui vont assez rapidement, et je pense que d'ici 3-4 ans, on verra la différence avec, sur la métropole, ces 180 000 arbres qui ont déjà été plantés.
Parmi les quartiers de Villeurbanne qui se végétalisent, le quartier Charmettes de Dieu. Il compte à lui tout seul une cinquantaine de nouveaux arbres entre rue des Charmettes, rue Jean-Claude Vivant, rue Anatole France et rue Mansart. Le plus important avec ces plantations est de rafraîchir les zones urbaines le plus rapidement possible. C'est le défi pour Pierre Athanase, vice-président en charge de l'environnement.
L'idée, c'était effectivement de planter massivement, et là-dessus, on a réussi le challenge. Depuis le début du mandat, c'est 180 000 arbres plantés. Rien que cette année, c'est 78 000. Donc, on est dans des chiffres, voilà, qui sont énormes. On en plantait entre 2 et 3 000 par an dans les mandats précédents. Donc, on a vraiment changé d'échelle. Mais en même temps, on a changé complètement nos techniques de plantation, nos typologies de plantation, de façon à répondre le plus vite possible à cette recherche de fraîcheur. Quand on plante des arbres qui vont avoir des hauteurs différentes. On va planter des arbres beaucoup plus près qu'on ne les plantait précédemment, de façon à ce que l'ombre soit continue dès les premières années. Avant, on mettait les arbres tous les 14 mètres. Donc ça faisait effectivement des beaux arbres, mais ça faisait des arbres qui étaient perdus dans des zones de chaleur. C'était des arbres qui étaient complètement déconnectés les uns des autres. De les rapprocher, ça va aussi permettre effectivement que ces arbres poussent mieux, mais ça va permettre de beaucoup mieux répondre à cette question qui est vraiment très très forte de la chaleur en ville.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de planter dans cette rue en priorité aujourd'hui?
Alors parce que cette rue a vraiment été identifiée comme un îlot de chaleur sur Villeurbanne. On essaye de répondre à cette demande-là parce que c'est là qu'on a le plus d'habitants. Donc il faut absolument qu'on réponde à ça en leur apportant de la fraîcheur. Mais tout ça dans une stratégie qui est une stratégie d'agglomération. Si on veut gagner le combat contre le dérèglement climatique à l'échelle de la métropole de Lyon, c'est vraiment dans une vision d'ensemble, avec des types de plantations qui seront différentes. Toujours des arbres d'alignement, mais plus serrés, plus denses, avec des strates différentes, avec des forêts urbaines qu'on va pouvoir mettre dans les communes extérieures. Forêts urbaines qui font entre 2 hectares, 2 hectares et demi et 10 hectares pour celles de Fézin que nous sommes en train de réaliser. C'est des plantations de haies bocagères dans les milieux agricoles de l'Est lyonnais qui est un immense îlot de chaleur dès que les moissons sont réalisées. Donc il faut absolument aussi qu'on rafraîchisse cette zone-là de façon à ce que l'agglomération arrive à gagner au final 1,5 degré, 2 degrés si on travaille bien.
Fraîcheur et biodiversité sont donc les mots-clés du plan nature. Hormis les plantations en ville, le plan incite à la végétalisation des domaines privés et à la création de forêts urbaines dans les communes de la métropole.
Merci Inès. Un chantier de grande ampleur en ce moment sur les 14 écluses situées à l'aval de Lyon, donc sur le Rhône. La CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, coordonne leur maintenance annuelle afin de maintenir la fiabilité des ouvrages qui permettent tous les jours le passage des bateaux de marchandises ou les bateaux de plaisance sur le Rhône. Entretien, étanchéité, nettoyage des portes pour chaque écluse, remplacement des pièces usées. L'entretien nécessite en tout cas la mise hors d'eau des équipements et donc leur indisponibilité pendant toute la durée du chantier, soit 10 jours et 10 nuits. Journée de prévention à l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc. Il s'agit de sensibiliser au cancer colorectal à l'occasion de l'opération Mars Bleu, mois de sensibilisation du cancer colorectal. C'est de 9h à 13h aujourd'hui dans le hall du bâtiment, un événement de prévention dédié au grand public en association avec la communauté professionnelle territoriale de santé du 7e arrondissement et la Ligue contre le cancer. Au programme de cette matinée, découverte des méthodes de dépistage, les étapes à suivre, présentation des kits de dépistage et explications sur leur utilisation et où les trouver. Conseils également pour adopter une alimentation qui limite les risques d'un cancer colorectal et des conseils également pour intégrer des exercices dans votre quotidien afin de limiter les risques.
Lyon demain ? Innovation.
L'industrie d'aujourd'hui est en pleine mutation, confrontée à des défis majeurs, la transition écologique d'abord, avec l'impératif de réduire l'empreinte carbone et de limiter l'impact environnemental, ce qui pousse l'industrie à adopter des pratiques plus durables. L'industrie 4.0 avec l'automatisation, la robotique, l'intelligence artificielle, voilà qui transforme les modes de production et les métiers. Enfin, on le sait, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont fragilisées par les crises, poussant à une relocalisation de certaines productions pour gagner en souveraineté. Pour faire face à ces enjeux, Robinson Joubert et Elliot Bonneau ont créé un annuaire Manukéo et une plateforme numérique Copo. Pour tenter d'en savoir plus, nous avons rencontré Robinson Joubert.
Manukéo, c'est une plateforme qui accompagne les entrepreneurs, les dirigeants à sourcer en France. Concrètement, c'est identifier rapidement quel est le fabricant, le manufacturier qui peut répondre à vos besoins. On retrouve tout type d'entreprise, que ce soit de la TPE, de la PME, de l'ETI ou même de l'artisan. Et cela dans tous les domaines, ça va du packaging au textile, en passant par l'impression jusqu'à la métallurgie. Le but, c'est vraiment d'aider tous les entreprises et entrepreneurs français.
Quel est le dénominateur commun de toutes ces entreprises ?
Elles fabriquent, elles ont une partie de la fabrication et elles ont un savoir-faire français. Et elles sont du coup forcément accessibles et proches de chez nous bien souvent.
C'est quoi l'intérêt de les sourcer et de rendre public cet annuaire ?
L'intérêt, c'est de dynamiser encore plus la fabrication française, c'est de faciliter les échanges, les synergies et puis... Également, de donner encore plus envie aux personnes qui, des fois, ont des questions de fabrication, de procédés, d'avoir des informations plus facilement.
Pouvez-vous nous donner des exemples, justement, d'entreprises alors, qui sont référencées chez vous ?
Typiquement, on a Realstam, donc c'est un fabricant tricot d'origine bretonne, qui sont orientés de plus en plus sur des tricots techniques et qui accompagnent des entreprises sur des besoins de matériaux en tricot. On a aussi d'autres domaines, notamment dans le packaging, des imprimeurs, des fabricants qui peuvent faire un sac craft pour un restaurant avec le petit logo dessus, comme ils peuvent faire de la boîte carton en grande quantité pour un produit où on veut avoir un packaging de qualité. Donc vraiment, on va accompagner à travers la plateforme sur tous les types de produits et tous les types d'entreprises.
Je croyais que l'industrie en France, c'était un peu fini. Il y a un renouveau aujourd'hui, l'industrie ?
Oui, il y a clairement un renouveau, et d'autant plus qu'on observe une nouvelle génération d'industriels, de fabricants et d'entrepreneurs. Et c'est d'autant plus le rôle de Manukéo de faire le pont entre les anciennes entreprises qui ont des fois un savoir-faire centenaire, qui ont leur méthode de fabrication connue, mais d'un réseau déjà établi, et les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux industriels qui cherchent justement ces savoir-faire-là et qui n'ont pas toujours la meilleure méthode pour les trouver, les identifier.
Ça veut dire que chez Manukeo, il n'y a pas que de l'industrie 4.0, comme on dit, mais il y a aussi des anciennes industries ?
C'est ça, et c'est clairement le but. En fait, c'est qu'on parle beaucoup d'industrie 4.0, des nouvelles technologies, des innovations, mais en fait, les innovations, elles viennent aussi des technologies centenaires, des établissements EPV, comme on dit. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aider à sourcer tous ces savoir-faire, ces connaissances qui, des fois, ont plusieurs années, des dizaines d'années, voire plus, et qu'elles soient accessibles, en fait, au plus grand nombre.
On peut tout fabriquer en France ?
Alors, on peut pas forcément tout, mais une grande majorité, et en tout cas, on peut avoir tous les savoir-faire et les connaissances en France. C'est ça le vrai avantage.
Après, il y a la question économique. Est-ce qu'on est compétitif en France ?
On l'est de plus en plus. On peut voir aussi avec les taxes étrangères qui vont s'augmenter. Ça va nous mettre un grand frein. Les industriels français sont très agiles, très à l'écoute, et même auprès de petits industriels, de petits fabricants, ils vont toujours essayer de trouver une solution. L'idée aussi, c'est qu'ils ont un jargon technique qui est pas forcément simple d'accès au début. Manukeo veut aussi essayer d'aider ces personnes qui, comme moi, lorsque j'ai commencé à 15-16 ans et que j'avais pas forcément les éléments techniques, qu'on puisse me les apporter, me faciliter pour justement faire le pont entre leur jargon, leur métier et les personnes qui ont un besoin. Parce que la personne qui a besoin de 50 chaises aujourd'hui peut très bien être celle qui en aura besoin de 10 000 dans 2 ans. Et si on lui donne pas sa chance au début, elle l'aura pas dans 2 ans.
À côté de Manukeo, vous avez construit une autre plateforme qui s'appelle Copo. Copo avec un K, c'est quoi Copo ?
Copo, c'est plutôt l'étape d'après. Manukeo, c'est au début le sourcing, on identifie, on voit qui est le prestataire, le fabricant parfait, en tout cas celui qui va répondre aux besoins. Et Copo, c'est l'étape d'après, c'est la plateforme de gestion de la sous-traitance et de la prestation. Qu'on ait besoin de louer une machine, qu'on ait besoin de gérer un contrat de prestation global, Copo va vraiment aider à visualiser et à gérer son quotidien de fabricant.
Ça veut dire que dans les parcs machines existants, il y a des machines qui sont à l'arrêt aujourd'hui ?
C'est ça, le constat est aussi basé sur ça, sur Copo, c'est qu'il y a réellement un parc machine qui est sous-utilisé, inutilisé, et en fait, il y a des entrepreneurs qui ont besoin de ces machines-là. Et il suffirait qu'ils connaissent les machines disponibles autour de chez eux et ils pourraient juste la louer pour 3-4 jours dans le mois par exemple, et ça répondrait à un besoin qui serait immédiat et qui leur éviterait de débourser 500 000, 1 million d'euros sur des machines très spécifiques.
Et ça se pratique facilement entre entreprises qui sont parfois concurrentes ?
Alors oui, il y a pas mal de freins à l'entrée, c'est pour ça aussi que nous on travaille là-dessus et qu'on va mettre beaucoup de sécurité et d'encadrement autour de la pratique, mais l'idée c'est vraiment d'apporter une solution sur les entreprises entre deux entreprises potentiellement concurrentes, comment on encadre juridiquement, on assure et on couvre la totalité de la prestation ou de la location pour faciliter ces échanges.
Le premier objectif, c'est l'économie d'échelle au niveau de l'achat des machines.
Oui, c'est clairement ça. Une machine, alors ça dépend, on a vraiment tout type de machine. On a de la machine de mesure qui peut être entre 15 000 et 20 000 euros jusqu'à une machine de production qui va 500 000, 1 million, 2 millions. Et en fait, c'est un investissement qui est très très conséquent et des fois stratégique. Et donc l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès à ces machines et peut-être que dans 1 an, 2 ans, il y aura un besoin de l'acheter totalement. Mais en fait, on vient combler cette étape avant l'achat finalement.
Et puis il y a aussi, pour terminer, pour conclure, l'intérêt écologique au niveau des ressources de la planète.
Clairement, on parle beaucoup d'industrie et c'est très connoté négativement l'industrie aujourd'hui sur la fabrication, toutes les émissions qu'on peut avoir autour de ça. Nous, l'idée, au-delà de l'optimisation des machines, c'est aussi de se dire qu'on n'a pas besoin d'acheter à foison des équipements. On limite nous-mêmes à titre perso nos consommations, pourquoi pas on le ferait aussi dans l'industrie, en n'achetant pas énormément de machines, mais juste en achetant celles qu'il nous faut et en la partageant avec d'autres industriels.
Pour terminer, on vous retrouve où ?
Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur notre site directement, manukeo.com pour la partie annuaire et copo.fr, K-O-P-E-A-U-X.fr. Et si vous avez des questions, si vous êtes industriel, si vous avez envie de partager avec nous vos idées et de réinventer l'industrie, moi-même, Robinson et Elliot, avec qui j'ai cofondé Copo, on reste ouvert à vos idées et à vos questions.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Paulo Fonseca a fait l'objet d'une très lourde sanction. La commission de discipline a prononcé une suspension ferme avant, pendant et après le match. Interdiction d'accès aux bancs de touche, aux vestiaires des officiels et de toute fonction officielle jusqu'au 30 novembre inclus. La sanction prend effet immédiatement. Elle fait suite à son comportement vis-à-vis de l'arbitre Benoît Millot à l'occasion du match OL-Brest dimanche dernier. Un coup dur pour l'Olympique Lyonnais puisque cet entraîneur venait de prendre ses fonctions après la mise en retrait de Pierre Sage fin janvier. Paulo Fonseca Fonseca a dirigé seulement 5 matchs de l'Olympique Lyonnais. Sa longue suspension implique des contraintes presque insurmontables à ce niveau. L'Olympique Lyonnais annonce dès à présent qu'il étudie toutes les solutions possibles de recours. Dans ce contexte tendu lié à la situation de Paulo Fonseca, l'Olympique Lyonnais va devoir jouer ce soir son 8e de finale aller contre le Steaua Bucarest avant d'affronter le club dans 8 jours à Décines. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine.